Les creux de maison. Deuxième partie, chapitre 2. La fâcherie des marandières. Delphine accoucha au mois de mars. À défaut d'un François, on eut une fille qu'on n'appela point Delphine, mais Louise, du nom de la marraine, la seconde des Maufrette. La mère fut vite remise et put nourrir la petite. Naturellement, il ne fallut plus songer à aller en journée, mais Delphine trouva tout de même du travail à faire chez elle, car on la savait adroite et soigneuse. Malheureusement, vers ce temps-là, ceux des marandières firent la vie dure à leur valet. Jandet, sa troisième attaque étant enfin venue, dormait tout de bon au cimetière et la loriotte, débarrassée du vieux, faisait marcher ses hommes. L'âge, au lieu de l'attendrir, avait accru sa ladrerie. Elle était de plus en plus grondeuse et regardante. Le patron, bon vivant au fond, un brin noceur et paresseux, recevait les pires averses au retour des foires. On lui laissait encore faire les marchés parce qu'il était matois et parce que Frédéric ne réussissait pas ces choses-là, étant trop brusque et sans défense du côté de la langue. Pour tout le reste, labour, semis, récolte, on ne consultait plus guère Loriot. Bousculé par les siens, il était naturellement enclin à soutenir le valet. Il reconnaissait d'ailleurs que Séverin était dur à l'ouvrage et ne rechignait pas devant la soupe à l'eau et au sel. Mais il ne sonnait mot devant les autres, filant doux pour faire oublier ses souleries. Le second valet était un petit gars sournois de 17 ans. Il aurait volontiers fait longue mérienne quand les patrons étaient absents. Séverin, ne comprenant pas les choses de cette façon, le menait rondement. L'autre lui en gardait rancune et faisait des comptes à Frédéric sur des propos qu'il prêtait au grand valet. Parfois, à l'ouvrage, il y avait entre le gars et le petit compagnon des rires qui ne s'expliquaient guère. Parfois aussi, Séverin surprenait des coups d'œil d'intelligence et des gestes de moquerie. Il ne disait rien, tapait droit devant lui. Pourtant, les choses se gâtèrent. Il eut, à plusieurs reprises, des mots avec Frédéric, une fois pour des fagots soi-disant mal faits, une autre fois à cause d'une journée dont il avait besoin pour bêcher son jardin et que le gars s'entêtait à refuser, bien qu'elle eût été prévue dans le marché. Enfin, la haine qui était entre eux éclata au temps des fauches. L'herbe du dernier pré était à terre. Séverin, fin faucheur, avait tout le temps poussé l'autre devant lui, et Frédéric sentait d'autant plus l'humiliation que, le soir, après la soupe, le petit valet mettait des vantardises au compte de Séverin. L'herbe, donc, était toute à terre, et il fallait commencer à la rentrer. Il fallait même se hâter, car le temps n'était pas sûr. Delphine, le premier jour, apporta sa petite aux marandières et donna un coup de main pour le râtelage. Mais le lendemain, l'enfant étant indisposée, elle resta chez elle. La loriotte sut bien faire entendre qu'elle tenait Delphine pour une paresseuse et qu'il faut avoir un peu plus de courage quand on n'a pas trop de pain chez soi. Séverin se contint. Toute la matinée, il fit des charretées pendant que Frédéric et le petit valet approchaient le foin. Après-midi, ce fut le tour de Frédéric de monter sur la charrette. Tout alla bien d'abord, mais Loriot ayant, malgré sa femme, apporté une pichetée de vin pour donner du courage aux travailleurs, le gars excité prétendit que les deux chargeurs n'en finissaient pas.
« Hardi donc ! Il en faudrait 4 comme vous pour m'apporter le foin ! Hardi ! Apportez !»
Les deux autres apportèrent. Le foin monta vite dans la charrette. Frédéric, enfoncé jusqu'aux aisselles, fut un moment débordé. Il s'impatienta encore.
« Bon Dieu ! Quand saurez-vous charger, hein ? Vous devriez faire de plus grosses fourchées !»
Puis brusquement, comme Séverin, sans s'émouvoir, continuait à piquer dans une petite meule, il lâcha l'injure des rudes gars au failli mâle.
« Entends-tu pas? C'est pour toi que je parle, femme de ville !»
Le valet se retourna, tout pâle.
« Fédéri Loriot, si tu n'es pas content de mon travail, faut le dire. Je fais ce que je peux. Si tu n'es pas content, dis-le tout de suite. »«
Non, je ne suis pas content, crève de faim. Non, je ne suis pas content, pâtira.
Tout de même, prends garde à tes paroles, Fédéri. »
Mais l'autre, une mauvaise flamme dans les yeux,
« Prends garde toi aussi, Lantou, je vais te sortir du pré. »
Puis, étranglé de fureur, il vociféra en descendant de la charrette,
« Race de pouilleux et de gens ruinés, cherche pain, Lantou, va-t'en où je t'éreinte !»
Séverin sentit ses mâchoires trembler et de petites choses bleues lui dansèrent devant les yeux. Il piqua sa fourche dans la terre et dit
« Amen !»
Ils se coltèrent, se bousculèrent un moment sans taper, comme deux taureaux qui essaient leurs cornes. Mais, la chemise du valet ayant craqué, il en profita pour se rapprocher et, soulevant l'autre, il le balança et l'étendit. Puis, se garant la figure que Frédéric visait à coups d'ongle, il cogna. Cependant, le petit valet, Loriot et Louise accouraient avec leurs outils. Ils se jetèrent tous sur Séverin. D'un bond, il fut debout et empoigna l'aiguillon.
« Feignant ! » cria-t-il. « Venez-y donc, ô cherche-pain ! Venez-y donc, tous, feignant !»
Blanc de visage comme un mort, il leur rejeta l'insulte.
« Je suis un crève de faim, moi, mais je vaux mieux que vous, qu'êtes engendré de chiens !»
Puis il leur tourna le dos et se dirigea vers l'échalier. Avant de sortir du pré, il cria encore.
« Frédéric Loriot, prends garde, ô cherche-pain !»
Et aussi,
« Venez-y donc tous, tâte feignant, feignant, feignant !»
Il s'en fut dans la grange ramasser les menus objets qui lui appartenaient. Ayant réuni dans une vieille blouse deux mitaines de gros cuir qui lui servaient à fagoter, une pierre à aiguiser et une petite forge à battre les ferments, il jeta le paquet sur son dos avec ses hardes qu'il n'avait pas reprises. Puis, décrochant sa faucille qui était piquée au portail, il s'en alla. Lorsqu'il arriva aux pelleteries, Delphine, assise sur la pierre du foyer, était en train d'endormir la petite. Elle poussa un cri.
« Hé ! Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu ? »
Il avait jeté son paquet à terre.
« Je viens d'enrager !»
fit-il d'une voix sourde. Enragé, se dit au pays de Bocage d'un valet qui quitte son patron pour cause de fâcherie.
« Tu viens d'enrager ? Ce n'est pas vrai, mon Dieu !»
Elle se leva et, ayant couché l'enfant, vint à lui tout apeurée.
« Dis, ce n'est pas possible. Ta chemise est déchirée. Tu t'es donc battu ?»«
Oui, on s'est battu. Le Fédéri m'a fait des reproches et j'ai tapé. Ça devait arriver.
Il t'aura fait du mal. Fallait pas te battre, voyons. Fallait t'en venir. Comment allons-nous faire pour le gage ? Ta chemise est perdue. »
Elle avait les larmes aux yeux en rapprochant les lambeaux d'étoffe. Il la repoussa et, soudain, la voix douloureuse
« Laisse-moi »
cria-t-il.
« Ah, j'ai tort.
Ah, on m'appellera femme de ville et pouilleux et je serai là et j'écouterai sans rien dire. Tu crois ça, toi ?»
Les voisines, entendant ces éclats de colère, étaient accourues.
« Qu'y a-t-il, Jésus ?»
« Ce qu'il y a, mes commères, il y a que les gars des marandières m'ont embêté et que j'ai tombé dessus et que celle-ci me le reproche à cette heure. »«
Oui, Delphine, on m'a dit que tu étais une fainéante et une ruinée. Moi, je suis un chercheur de pain.
Et il aurait fallu que je me taise ?
J'en ai assez. Nous autres valets qui nous tuons pour les patrons, on nous mettra sous les pieds.
Parce que je suis un crève-la-faim. Les gens me cracheront à la figure. Nom de Dieu, qu'ils y viennent !» Soulevé de colère, le poing haut, haletant, superbe, il défiait tous ceux qui l'avaient fait souffrir dans sa jeunesse, et ceux pour qui il avait travaillé, et ceux
pour qui il trimerait encore, demain et toujours.
Delphine pleurait en dorlotant la petite qui s'était réveillée au bruit. Les voisines s'efforcèrent de les apaiser. Ces choses-là arrivaient à tout le monde. On avait vu bien d'autres valets enragés. Chez les Loriot, surtout, cela n'était pas étonnant. Ils avaient grand tort, tous les deux, de se faire un cassement de tête d'une si petite affaire.
Séverin, un peu calmé, changea de chemise et sortit dans le jardin, où Delphine ne tarda pas à le rejoindre. Toute la soirée, il bêcha sans desserrer les dents. À la nuit tombée, quand les hommes des creux de maison furent rentrés et qu'ils surent comment Pâtureau, relevant une injure qui les atteignait tous, avait corrigé le gars des Marandières, ils approuvèrent bruyamment. Tous détestaient Frédéric, et ils eussent souhaité une correction plus complète. Même l'un d'eux, le Sureau, un fort en gueule, tantôt valet, tantôt sur de long, ricana.
À ta place, je n'aurais pas jeté ma fourche, non.
S'il s'était amené, je l'aurais enfilé comme un barbeau.
Maufray haussa les épaules. Tu dis des bêtises, Sureau. S'agit pas d'abîmer les hommes.
Puis, se tournant vers Séverin, tu as fait tout ce qu'il fallait, mon vieux. Peut-être même que tu en as trop fait. As-tu ton argent?
Tu n'as pas ton argent?
Vous pensez, mon frère, que j'ai songé à autre chose, quand ils se sont jetés sur mon dos comme des bêtes.
L'autre crachota.
Ils te feront des misères. Je les connais, les Gripsous. Tu as cogné, ils te menaceront d'un procès pour ne rien donner. Ils savent que nous avons toujours tort devant le juge. Faut pourtant que tu sois payé.
Je crois bien. Je ne leur ferai pas cadeau d'un liard.
Hein? Qui sait?
J'en ai bien connu d'autres. Tu ne sais pas, mon gars. Quand elle finira chercher ton argent, elle emmènera celle de chez nous. Tu comprends? Ta femme n'est point sotte. Mais c'est jeûné, ça manque de hardiesse.
Victoire, elle, en a vu de toutes les couleurs, et, Dieu merci, elle a toujours la langue plus pointue qu'un aspi.
Il faudra y aller le dimanche matin pour tâcher de trouver Loriot, qui est encore d'arrangement.
Si la Louise était seule, elle ne donnerait rien, la vieille garce.
Maufrette, un enfant suspendu à sa longue mamelle, parut dans la clarté sur le seuil de la porte. Sa petite tête, presque chauve et sans résille, surmontait étrangement son gros corps. Elle avait un ventre énorme qui ne se dégonflait plus aux accouchements. Son jupon court levait par devant, laissant voir ses chevilles nues. Elle venait d'entendre les paroles de son homme.
« Il n'y a pas de crainte à avoir, Pâtureau » cria-t-elle de sa voix aiguë. « J'irai la trouver, moi, la Loriotte. Et même, je lui ferai une belle morale. »
« Si tu veux, reprit Maufray, tu lui feras la morale, mais quand tu auras l'argent. »
Le dimanche suivant, les deux femmes allèrent donc aux Marandières. Contre leur attente, Loriot n'y était pas. La Louise, en les voyant venir, avait fermé la grande porte du côté de l'air, mais elles firent le tour des bâtiments et entrèrent par le fournil. La vieille, manche relevée, était penchée sur un seau d'eau grasse au fond duquel elle écrasait des pommes de terre bouillies. Elle les regarda en dessous sans tourner la tête, puis, comme si elle eût été seule, elle se releva et sortit. Les deux autres l'entendirent qui grommelait après les cochons et qui traînassait ses sabots avec l'air de ne pas se hâter. Alors, la Maufrette s'avança sur le seuil et cria «
Loriotte, si ça ne vous ennuie pas, vous viendrez ici. Nous avons affaire à vous. Et puis, nous sommes pressés, vu que c'est l'heure de la messe.
Ah, moi, j'ai affaire à Mégoré. Rien ne presse chez nous. »
Il fallut attendre. À la fin, elle revint et, laissant tomber son seau,
« À cette heure, que voulez-vous ? » demanda-t-elle. « Nous venons pour l'argent. Dis-lui ton compte, Delphine. »
Delphine, un peu effrayée par cette grande vieille, balbutia.
« Dame, Séverin a enragé le 15, ça fait juste 22 pistoles. »
La Loriotte ricana.
22 pistoles. Tu sais compter, Jarny.
Cela en vaudrait tout au plus 18, puisque c'est le temps d'ouvrage qui reste à faire.
Mais c'est pas tout ça. Notre valet a enragé. Il a battu ceux d'ici. Nous ne lui devons rien.
Par exemple, fit Maufrette.
Toi, Maufrette, ça ne te regarde pas.
Tu aurais mieux fait de rester moucher tes drôles.
22 pistoles. Vous pouvez tourner vos sabots, mes belles. Vous n'aurez pas un denier.
Nous tournerons nos sabots quand nous aurons l'argent, reprit Delphine.
Séverin a dit que si vous ne le payez pas tout de suite, il vous mènerait à l'audience.
À l'audience ? Eh bien, tu peux lui dire que j'en ai grand peur.
Oui, j'en ai grand peur, ma foi.
Vous n'en avez pas peur, dit Maufrette.
Sûrement. Vous y allez plus souvent que nous.
Quand ce n'est pas avec les valets, c'est avec les voisins.
Seulement, il y a des gens qui m'ont dit que le juge de paix commençait à être las de vous, et que si vous retourniez encore lui donner de l'ouvrage, ça vous coûterait chaud.
La Loriotte ouvrit la fenêtre et cria du côté des écuries.
« Frédéric, oh ! Frédéric, viens donc !»
Frédéric arriva. Il avait un œil enflé et bleu.
« Tenez, mes belles, voilà comment Séverin a arrangé celui-ci. Il l'a quasiment estropié. Sans nous, il le tuait. Eh bien, allons-y à l'audience, si vous voulez. Nous verrons s'il n'attrape point de la prison. Ton homme, ma petite Delphine !»
Maufrette, voyant que tout était perdu, vira sur ses jambes de canne et, s'approchant de Frédéric, lui cria sous le nez.
« Ah, t'es mouché, chenaille de malédiction ! T'as trouvé ton maître ! Maintenant, il va te mener à l'audience, et si la crapule te soutient, on verra du moins que tu as été corrigé. Et les gens riront, tout le monde sera content. Et tu en recevras d'autres, c'est moi qui te le dis. Les drôles de 15 ans voudront t'empoigner pour essayer leur force. Ah, ton valet t'a ménagé. Ce qu'il aurait dû faire, c'est te casser les reins. Mais il a eu pitié de toi, méchant coq châtré !»
Le gars avait pâli. Une terrible lutte s'engageait entre son avarice et son orgueil. Pour gagner à cette audience, il faudrait avouer qu'il avait été battu. Et c'était vrai qu'on en ferait des gorges chaudes, et qu'on en parlerait longtemps. Cette pensée lui était si cruelle que l'orgueil l'emporta. Il se mit à rire en homme qui n'attache pas grande importance au cancan des femmes.
« As-tu fait ton compte, Paturel ?»«
Oui, » dit Delphine, « ça fait 22 pistoles. »«
Non, ça ne fait pas 22 pistoles. Mon compte à moi est de 20 pistoles. Je m'en vais te les donner. »«
Jamais de la vie, par exemple, » gronda la mère, en se mettant devant l'armoire. Mais il l'écarta, ouvrit le tiroir et prit un billet de 100 francs et des louis. Il riait encore.
« Tais-toi, maman, que je paie ces crèves de faim. L'autre jour, j'ai payé le gars. Ça ne paraît pas sur lui, mais je l'ai bien touché quand même. Il a eu son compte. Aujourd'hui, je vais donner à sa femelle son compte de sous. »
Il déplia le billet et aligna les louis sur la table. La Loriotte se jeta en avant.
« T'es fou, Frédéric, serre ça !»
De sa main couverte de lavure, elle agrippa un louis. Alors, Maufrette ramassa vivement le reste et le mit dans la poche de Delphine.
« Ça ne fait pas le compte. Tu vas lui donner ses 40 francs, dit-elle.
« 20 francs, rectifia l'homme. « C'est 20 francs que je lui donnais en plus. Mais la mère ne veut pas.
« Tant pis. Ça ira comme ça. Maintenant, allez-vous-en, les femmes. »
Elles sortirent du côté de l'air. Quand Delphine eut dépassé le fumier, elle s'arrêta.
« Maufrette, venez donc, voyons !»
Mais Maufrette avait encore des mots à dire, des mots fort vilains qu'elle lâchait par courte volée, car elle avait un peu d'asthme. Elle était restée en arrière, elle quittait la place lentement, à reculons, et l'ardeur qu'elle mettait à honnir la Loriotte faisait tressauter son gros ventre et trembler sa poitrine molle. Elle rejoignit Delphine au tournant de l'ouche.
As-tu vu ? Fit-elle tout essoufflée. As-tu vu comme elle a raclé le louis d'or, cette vieille gralée ?
N'empêche que je lui ai donné tous les noms, va ! Au pelleteries, Séverin et Maufrée attendaient avec inquiétude.
ils ne comptaient guère sur l'argent et ils furent bien étonnés de voir ces 180 francs. Quand elles racontèrent comment Frédéric les avait donnés, Maufray n'en crut pas ses oreilles, mais Séverin se mit à rire.
« Ça ne me surprend plus autant, moi, » dit-il. « Si j'avais eu un œil abîmé comme lui, ou bien des dents cassées, vous n'auriez pas arraché un sou. Il est rudement chien, le bougre, mais il est encore plus glorieux de sa force. »
Séverin, la semaine qui suivit, resta chez lui. Il en profita pour s'occuper de son jardin et bâtir une petite cabane à lapins. Il fit des journées de ci, de là. Il n'est pas de plus dur métier que celui de journalier au temps des gros travaux. Y a-t-il dans une ferme un coup de collier à donner ? Le patron dit
« Mais valet, nous allons laisser cela pour la semaine prochaine. Nous prendrons un homme qui nous aidera. »
L'homme de renfort a, bien entendu, la meilleure place. Le lendemain, il recommence dans une autre ferme, ramassant ainsi tout le travail pénible. Heureusement, Séverin trouva à se louer pour toute la moisson chez les chauvins du Paty, des gens qui faisaient valoir une grande terre. Après les batteries, il remplaça au même endroit un valet qui était tombé malade. Enfin, il s'y gagea pour l'année suivante. Tout compte fait, le matin de la Toussaint, Delphine, en rassemblant l'argent gagné pendant l'année, trouva 350 francs, juste ce que Séverin aurait rapporté s'il était resté aux marandières. Il n'y avait que les pommes de terre en moins. Elle compta ce qu'il fallait pour les grosses dettes, 40 francs de loyer et 90 francs de pain. Elle mit le reste de côté avec les 100 francs qui lui restaient. Il allait falloir acheter des sabots, quelques hardes, deux sacs de pommes de terre, des haricots et un petit morceau de viande qu'on salerait pour les jours de fête. Delphine pensa « Si tout va bien, il me restera encore plus de 200 francs pour passer mon année. Au beau temps, la petite marchera. Je pourrai travailler et je tâcherai d'en rogner un peu. » « Séverin, dit-elle tout haut, nous prendrons une terre. » Lui, qui achevait de s'habiller, eut l'air de douter.
Ce sera dur. Encore une dizaine d'années comme celle-ci, et je commencerai à être là. »
Il s'était penché pour baiser la petite menotte de Louise, que Delphine tenait à son cou. « Pauvre homme, c'est vrai que tu n'as guère d'amusement. Toujours trimer et jamais rire. Tiens, prends donc ce panier. Puisque tu vas au bourg, tu m'apporteras 4 livres de résine. Te voilà sans sous, avec ce qui te restera, tu peux bien faire une petite partie. »
« Oh, la partie, ce n'est pas mon fort. Pour une fois, tout de même. »
Il se pencha à nouveau vers la petite et vers la mère. Dans la soirée, quand Maufrette revint de Coutigny, elle cria à sa voisine par la fenêtre étroite
« Ne t'impatiente pas, Paturelle. Celui de chez nous est attablé avec le tien et deux autres dans le bas-bourg. Nous les aurons à la retraite et frais, sans doute. »
« Dame, répondit Delphine, c'est bien leur tour. »
Oh, pour ça, oui, bonnes gens, c'est bien leur tour. Qu'ils en profitent donc. »
À Coutigny, Séverin et Maufray étaient en effet en train de boire. Séverin, le matin, était passé chez le propriétaire et chez le boulanger, et il leur avait fait casser à chacun 10 sous sur ce qu'il leur devait. Après la messe, quand il eut acheté sa résine, il alla chez le charcutier. Il voulait faire une surprise à Delphine, qui n'avait pas mangé de viande depuis au moins 2 mois. Dès le matin, lorsqu'elle lui avait remis 100 sous, il avait songé à les employer pour elle. Il acheta donc une côtelette et un gros morceau de pâté qu'il fit envelopper soigneusement à cause de la pierre à chandelle qui se trouvait au fond du panier. Il lui resta encore 50 sous. Il acheta un paquet de tabac et, ayant rencontré Maufray, il entra avec lui à l'auberge. Elle était toute pleine ce jour-là, la petite auberge, toute pleine de fumée et de bruit. Elle retentissait de la joie épaisse des misérables. Les jeunes juraient et riaient très fort. Il y avait des vieux à peau sèche, tout rasés, la lèvre et le menton bleu. Certains étaient gauches en entrant et s'asseyaient timidement. C'est qu'ils ne se mettaient en dépense qu'une fois l'an. Faute d'habitude, ils ne savaient pas bien tenir leur place dans un écho. Tous jouaient des litres de vin. Ils buvaient comme on travaille, lentement, avec ordre, et ils versaient d'exactes verrées. Séverin et Maufray se mirent aux cartes contre deux gars de Malitron. Quand Maufrette regarda en passant pour juger de l'état de son homme, ils étaient déjà très rouges. D'autres, des jeunes gens à une table du fond, chantaient. Vers le soir, deux de ces jeunes voulurent se battre. On les jeta dehors parce qu'ils dérangeaient tout le monde en tombant à droite et à gauche. À l'heure des chandelles, tous étaient ivres. Ils ne se souvenaient plus des mauvais patrons, ni des femmes plaintives, ni des maigres enfants, ni de rien. Simplement, ils voulaient boire jusqu'à la retraite. Le lendemain, on verrait. Séverin et son compagnon quittèrent l'auberge vers 10 heures. Ils hésitèrent beaucoup pour descendre le seuil et pour s'orienter. Le vieux, plus ivre, battait la route. Séverin le prit sous le bras, mais au bout d'une minute, il le lâcha si brusquement que l'autre alla donner dans un mur.
« Bon Dieu, ma viande ! Maufray, ma viande ! Attendez-moi ici !»
Il avait en effet oublié son panier. Il revint à l'auberge, où il eut bien du mal à le retrouver. Enfin, il rejoignit Maufray, le releva péniblement et l'emmena. Ils arrivèrent fort tard au pelleteries. Delphine n'était pas couchée. Elle commençait à s'inquiéter. Séverin, ébloui par la chandelle, vacillait un peu. Il voulut expliquer avec des mots de tendresse qu'il avait pensé d'abord à elle. Il voulut dire aussi qu'il avait gagné aux cartes et n'avait déboursé que l'argent d'un litre. Mais il avait la langue pâteuse et s'embrouillait. Il s'écroula sur une chaise en montrant le panier. Alors, Delphine l'aida à se déshabiller et bientôt, il ronfla. Le lendemain, Maufray et lui eurent honte de cette soûlerie dont les femmes riaient entre elles.